Philosophe, une série de France Inter pour comprendre, découvrir ces grandes figures, ces révolutionnaires dont les idées, les concepts ont changé la manière de voir et vivre le monde. Hannah Arendt. Née en 1906 à Linden, en Allemagne, morte en 1975 à New York. Contemporaine de René Char, Jean-Paul Sartre et Nicolas de Staël, on en parle avec une philosophe et historienne, professeure à l'École normale supérieure. Bonjour Perrine Simon-Naoum.
Bonjour.
Et bienvenue Hannah Arendt. Son nom est aujourd'hui associé à la pensée du totalitarisme. Il est associé également à un procès pour l'histoire qu'elle a couvert, qu'elle a raconté, qu'elle a analysé, qui a été une déflagration au moment de sa publication, le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Hannah Arendt, elle a pensé, elle a repensé l'ensemble des phénomènes qui constituent notre modernité, la société, le pouvoir, le travail, la technique, tout ce qui a été en révolution tout au long de sa vie. Est-ce qu'elle est révolutionnaire, Hannah Arendt, et en quoi l'est-elle ?
Alors, elle n'est pas révolutionnaire au sens où nous l'entendons aujourd'hui le plus habituellement, à savoir le sens politique. En revanche, elle est révolutionnaire au sens où, effectivement, elle s'empare de tous les thèmes du XXe siècle. Hannah Arendt avait l'habitude de dire qu'elle avait une existence exposée. Qu'est-ce que ça veut dire, ce thème d'existence exposée ? Ça veut dire qu'elle avait à la fois conscience des drames de l'histoire.
Bien sûr.
Vous l'avez rappelé, elle est née en 1906. Elle a elle-même vécu des drames personnels, perdu très vite son père, vécu les deux guerres mondiales. Donc, elle avait conscience de ce qu'elle appelait les sombres temps.
L'âge des extrêmes, pour reprendre une autre expression.
Absolument. Et en même temps, elle a gardé toute sa vie la foi dans l'activité de la pensée, dans l'idée que les philosophes étaient là finalement pour repenser le monde à partir notamment de la recréation d'une expérience du monde. Et donc, elle est révolutionnaire dans la mesure où elle travaille sur l'ensemble des éléments de cette modernité dont vous avez parlé et dont nous verrons que elle produit une critique,
oui,
mais jamais pour s'arrêter à la critique et toujours pour refonder une expérience du monde, toujours pour produire un renouveau. Et l'idée de renouveau chez elle, de naissance, est une idée centrale pour sa philosophie, notamment sa philosophie politique.
Et notamment pour penser la vie là où la mort est installée dans le monde dans lequel elle vit. Et elle a dû, elle, juive, fuir le régime hitlérien. Elle s'est d'abord exilée en France. Elle a été internée avant d'être exfiltrée, de pouvoir s'enfuir et de rejoindre les États-Unis. Il y a donc l'histoire d'Hannah Arendt, mais la révolution de la pensée Arendt, est-ce qu'on peut dire que ça part de cet ouvrage « Les origines du totalitarisme » ? C'est un livre qui a été étudié dans le monde entier, qui a été publié en 1951. C'est la réunion de plusieurs essais qu'elle a écrits à chaud, entre 45 et 49, où le nazisme vient à peine d'être défait. Staline est au pouvoir, plus que jamais au pouvoir, et pourtant elle se confronte au ressort du totalitarisme en montrant une convergence entre nazisme et communisme, alors que l'histoire est en train de s'écrire, et alors qu'il y a eu Stalingrad, et alors qu'il y a eu, malgré tout, l'URSS qui est dans le camp des vainqueurs. Comment l'expliquer, justement, Perrine Simon-Naoum ?
Alors, les origines du totalitarisme, vous l'avez dit, c'est le grand œuvre d'Hannah Arendt. Et il faut bien comprendre que son approche du totalitarisme est là complètement révolutionnaire. Qu'est-ce que dit Arendt ? Arendt dit « le totalitarisme est un événement philosophique. Le totalitarisme est un événement que nous ne pouvons pas expliquer à l'aide de la philosophie politique traditionnelle. »
C'est le mot « événement » qui compte là pour le coup.
C'est-à-dire c'est un événement, dit-elle, inouï.
Ça fait éclater les catégories de pensée habituelles.
Ça ne s'est jamais produit et on ne peut pas se référer aux catégories traditionnelles de la philosophie politique pour le comprendre. Le second geste qui est au centre de cet ouvrage, c'est précisément la notion de compréhension qu'elle oppose à celle d'explication.
C'est le travail sans relâche que font les historiens, par exemple, pour expliquer la montée et l'installation du nazisme et du régime hitlérien. Elle ne fait pas ça. Elle repère des éléments qui vont se cristalliser et donner naissance à cette forme politique monstrueuse. Quels éléments ?
Alors, ces éléments sont au nombre de trois. Il y a l'antisémitisme, l'impérialisme et le racisme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les origines du totalitarisme ne sont pas une explication historique du phénomène totalitaire, mais une interrogation philosophique sur ce que le totalitarisme fait à notre relation au monde. Et tout l'argument d'Arendt, c'est précisément de montrer que ce qui en résulte est ce qu'elle appelle la désolation, à savoir la destruction des relations que l'homme entretient non seulement avec le monde, mais avec ses semblables.
Elle détruit cette machine totalitaire, la possibilité pour l'homme de trouver sa place dans le monde, de trouver sa place, d'y agir. Et le point commun, c'est vrai, entre nazisme et stalinisme, c'est la volonté de fabriquer un homme nouveau, éliminer l'individu pour produire quelque chose d'autre. Donc elle parle de cette expérience. Je la cite, « Les mouvements totalitaires avaient moins besoin de l'absence d'une structure de masse, au sens du nombre de la foule, que des conditions spécifiques d'une masse atomisée et individualisée. » Explication de texte.
Alors, ce qu'elle décrit, en fait, c'est la spécificité des régimes totalitaires, à savoir le phénomène de la terreur. La terreur qui diffère de la propagande. La propagande, c'est gagner un certain nombre de gens à vos idées. La terreur, c'est en réalité soumettre les individus, à savoir commencer par les isoler, et puis les intégrer ensuite dans une logique de pensée qui est une logique totalitaire, qui, au bout du compte, selon Arendt, et c'est le rôle dévolu pour elle aux camps de concentration, qui sont l'essence, en fait, du totalitarisme, détruit chez l'homme ce qu'elle appelle la spontanéité. C'est-à-dire détruit chez l'homme toute relation avec le monde et la capacité d'agir, vous l'avez très bien dit, que l'homme possède dans le monde.
Deux éléments qu'il faut rappeler, je la cite toujours, Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît.
Absolument. Et le mensonge, l'usage du mensonge, est pour elle justement le côté inédit des régimes totalitaires qui, encore une fois, ne se limite pas à une action politique, mais concerne la totalité de l'homme, la totalité de l'individu, à savoir cette création d'un homme nouveau, mais dont il ne reste plus rien d'humain, finalement.
C'est le régime où tout est possible. Alors Perrine Simon-Naoum, le nom d'Hannah Arendt, il est associé à une expression que tout le monde a en tête. C'est l'expression « la banalité du mal », une expression qui a été mal comprise, mais qu'on va essayer d'analyser. Partons d'abord du contexte. 1961, Adolf Eichmann, qui est l'un des grands logisticiens architectes de la solution finale, est enlevé par les services secrets israéliens en Bolivie. Il est emmené à Jérusalem et va s'ouvrir un immense procès, le procès d'Eichmann à Jérusalem, qu'elle va couvrir pour le magazine Le New Yorker. Ces reportages vont devenir un livre 2 ans plus tard, le titre Eichmann à Jérusalem. Et ce livre d'Hannah Arendt, c'est une déflagration.
Alors là, je crois que une fois encore, il faut lire Eichmann à Jérusalem dans la continuité de ce que nous venons de dire sur les origines du totalitarisme. Ce n'est pas un compte-rendu journalistique. D'autres ont fait des comptes-rendus. C'est une réflexion philosophique, et c'est une réflexion philosophique sur le thème qui va occuper en réalité toute la fin de vie d'Hannah Arendt, à savoir le retour à la philosophie kantienne et l'interrogation sur ce que c'est que juger. Eichmann à Jérusalem est, on pourrait dire, une provocation. Et c'est là où il y a eu un contresens sur cette idée de banalité du mal,
oui.
Puisqu'elle décrit Eichmann comme un fonctionnaire, comme finalement quelqu'un qui, frustré par la vie parce qu'il avait été licencié de son emploi, a vu une possibilité de faire carrière dans la SS. Il faut quand même dire que dans les années 1960, on n'avait pas encore toutes les données historiques sur ce qu'a été en réalité le rôle d'Eichmann. Et ça, Arendt ne pouvait pas le voir.
Mais c'était l'un des grands acteurs de l'extermination des Juifs. Et c'est vrai que lorsqu'on traîne Eichmann devant la justice et devant ses juges, les gens pensent voir un monstre. Ils pensent voir, je vais prendre une image, Barbe Bleue. Ils pensent se voir véritablement l'incarnation du mal absolu de Méphistophélès, du diable. Mais finalement, c'est un homme médiocre. Et ce qu'il de la frappe d'abord et avant toute chose, c'est qu'il a commis le pire, non pas par stupidité, non pas parce que ce serait un monstre, mais par pure absence de pensée. Ce sont ces mots. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Eh bien, ça veut dire effectivement que Eichmann a refusé de penser le monde en relation avec les autres, et qu'il a dénié aux Juifs la possibilité de vivre dans un monde commun. C'est-à-dire qu'il a produit exactement le geste du totalitarisme, qui est cette confiscation de l'expérience du commun qui fait la richesse de la vie humaine. Cela dit, il me semble qu'on peut avoir une lecture du livre d'Arendt, encore une fois en la replaçant dans ce contexte de la réflexion sur qu'est-ce que juger, qu'est-ce que la justice. Il est évident pour elle que Eichmann doit être condamné, ça n'est pas la question.
Mais ça n'est pas devant un tribunal international, mais c'est pour crime contre le peuple juif d'abord et avant toute chose, plus que pour crime contre l'humanité. Mais ça se passe alors qu'il est jugé en vertu d'une loi rétroactive et dans un pays qui n'existait pas au moment où les crimes ont été commis. Elle pose des questions qui devaient être insupportables à entendre à l'époque. En ça, elle a ce caractère de révolutionnaire de la pensée, à oser s'interroger, réfléchir, philosopher.
Oui, et elle met en cause d'ailleurs les autorités judiciaires elles-mêmes et l'État d'Israël. Ce qui l'intéresse, elle, c'est finalement cette crise du jugement, cette crise de la compréhension du totalitarisme. Et en fait, ce qui est insupportable pour ses lecteurs, c'est qu'elle prend acte de l'échec du procès. Qu'est-ce que c'est que cet échec, à son avis, dont tous sont responsables, et c'est ça qui n'a pas été compris, c'est finalement l'erreur des contemporains sur la montée du nazisme, et plus encore, dit-elle, l'erreur de ceux qui viendront après.
Et ce qui est en cause dans les actes monstrueux qu'a commis Eichmann, qui sera condamné à mort et exécuté, ce n'est pas ce qu'on aurait tendance à attribuer donc à la méchanceté, à de la haine profonde, c'est donc à cette banalité du mal. Et quand vous avez travaillé sur la réception de l'œuvre d'Hannah Arendt, en France par exemple, mais on pourrait citer d'autres pays, sa série d'articles va susciter des controverses. Le Nouvel Obs va même oser publier des réactions à sa couverture du procès sous le titre « Hannah Arendt est-elle nazie ? Est-elle nazie ?» Alors que c'est fou, cette femme juive dont la vie même est l'opposition totale à ce que peut représenter le totalitarisme, qu'on puisse formuler, écrire, imprimer un titre pareil.
Oui, elle va vraiment chercher dans le fait d'assister au procès Eichmann, la compréhension de ce phénomène du totalitarisme. Et on sait que cet ouvrage fera scandale et l'amènera à se brouiller avec un certain nombre de personnalités, dont le grand historien de la Kabbale, Gershom Scholem, qui va l'accuser en fait de ne pas avoir l'amour d'Israël. Or, encore une fois, ce qui est très important chez Arendt, je renvoie à un article important de 1953 qui s'appelle « Compréhension et politique », elle dit « il faut avoir le cœur intelligent ». Le cœur intelligent, c'est une notion qu'elle tire de la sagesse de Salomon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on ne peut juger des événements historiques que en considérant à la fois effectivement le rôle d'une rationalité historique, mais également notre expérience au monde qui passe toujours par le fait d'inclure les autres dans notre monde. Et c'est précisément là où Eichmann est coupable pour elle, parce que il a refusé de penser, parce que il a exclu par essence des individus du monde.
Et d'ailleurs, dans cet article de 1953, elle conclut « Et de nous efforcer de nous sentir chez nous dans le monde, ces mots peuvent paraître, simples, mais ils en disent tellement, et on va l'explorer dans la suite de notre entretien. Comment expliquer sa relation avec Martin Heidegger, dont on connaît les accointances et plus encore avec le régime nazi ? En un mot, elle a été son étudiante, son amante. Elle ne s'est jamais désolidarisée de lui.
Ça n'est pas ça qu'il faut retenir. Hannah Arendt, comme l'ensemble de cette génération dans les années 1920, au moment où elle va se former à Marbourg aux côtés de Heidegger, voit en lui une possibilité de refonder la philosophie. Elle dit « c'est une philosophie vivante ». Et elle va parfaitement analyser les errements de cette philosophie, même si, encore une fois, il ne faut pas faire d'anachronisme, on n'avait pas les cahiers noirs, donc on ne savait pas jusqu'où allait l'engagement de Heidegger
auprès du Führer,
dans le nazisme. Elle a toujours eu une faiblesse, qu'on pourrait appeler une faiblesse coupable pour Heidegger, puisqu'elle va accepter de le revoir, et puis elle le reverra chaque année, et puis elle va écrire un texte pour son 80e anniversaire. Mais je dirais que comme les autres disciples de Heidegger, ce qui est très intéressant chez Arendt, c'est cette idée justement d'habiter le monde, à savoir que pour elle, nous ne sommes pas, comme le dit Heidegger dans son grand livre « Être et temps » paru en 1927, des êtres pour la mort, nous sommes aussi des êtres pour la vie. C'est-à-dire que Heidegger réduit notre relation au monde au fait que nous savons que nous sommes des êtres mortels, des êtres pour la mort. Et Anna Arendt va s'opposer à cette idée, comme l'ensemble des disciples de Heidegger, tirés de cette intuition première de Heidegger, ce qui lui semble pour elle l'essence de l'humain, à savoir le fait que nous sommes des êtres pour la vie, à travers notamment ce concept central, encore une fois, dans sa philosophie de génération, de commencement, de nouveau. Et en ça, ce qui l'intéresse dans la Révolution, c'est précisément que la révolution philosophique qu'elle pense, c'est un commencement.
Merci Perrine Simon-Naoum. À suivre, Hannah Arendt et la crise de la modernité.